Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 12h et 13h avec Maurice Sefti. Maurice, bonjour.
Frédéric, bonjour. Si vous voyez passer une femme et qu'elle est du Nicaragua, c'est qu'elle est belle.
Nous étions dimanche dernier au Nicaragua.
Nous serons encore au Nicaragua.
Nous y restons ce dimanche.
Là.
Ouais. C'est vrai qu'elles sont belles.
Les Nicaraguayennes.
Ouais.
Écoutez, quand elles sont belles, elles vous coupent le souffle.
Les latines sont belles. Hein.
Mais les latines du Nicaragua, il y a un tel mélange. On pourrait faire aujourd'hui le portrait du pays pour comprendre ce qu'est un portrait humain. Pourquoi une jeune femme qui a des origines aussi diverses que celles qu'on peut retrouver au Nicaragua peut tout à coup, par ce métissage, devenir somptueuse, splendide, féline, fine. C'est surtout dans la qualité de la peau et des traits que je dirais que la...
C'est dû à quoi, ce gros métissage?
C'est dû au satin, c'est dû au velours, c'est dû au métissage lui-même, c'est-à-dire le velours noir, le satin bronzé un peu amérindien, ce mélange qui vient à la fois du Mexique, du Honduras, par des migrations, des Mayas aussi, et puis cette influence qui va faire qu'il y a quand même un côté caucasien aussi au Nicaragua. Ils sont peu nombreux, les Blancs, je veux dire, mais il est vrai que dès que vous mettez une goutte de tout cela, vous pouvez obtenir un mélange qui donne envie de suivre, de toucher.
Alors on suit, on touche.
De parler. Le langage est aussi très beau. Mais c'est d'abord une terre qui est vraiment, je disais somptueux tout à l'heure, c'est vraiment une sorte de qualification qui fonctionne pour ce pays, parce que à l'instant où on dit terre, lac, volcan, tout à coup les mouvements, les gestes se forment, il y a déjà quelque chose d'un peu féminin, en tout cas le Nicaragua c'est quelque chose d'émouvant, c'est une mosaïque comme cela de contraste, de surprise aussi. Je crois que c'est vrai que le côté surprenant, c'est peut-être ce qui nous touche le plus lorsqu'on débarque dans ce pays, et parce qu'on a de l'imagination. Le Nicaragua, ça ne nous dit rien du tout, franchement, au départ. Mais c'est surtout des paysages que vous allez découvrir, de regarder même dans la rue.
Là, on quitte la ville carrément, hein. Parce que là, dimanche passé,
on peut parler du Nicaragua en général. On a abordé Managua parce que c'est aussi la vraie surprise.
Avec le centre de la ville qui était complètement désert, complètement détruit.
Complètement vide, oui. C'était dû à cette spéculation étrange et surtout, je dirais même, au détournement de l'aide humanitaire que la dictature Somoza a mis dans sa poche carrément après le tremblement de terre de 1972. Mais quand on regarde justement dans une simple rue comme celle où nous étions à Managua, eh bien chaque visage est une sorte de témoignage d'ancêtres différents. Je crois que c'est ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et la surprise, vous en avez aussi lorsque vous écoutez, par exemple, je sais pas, le cuisinier d'un petit endroit où l'on mange, ce qu'on appelle un comedor sur place, et vous parlez avec lui, et il a une éloquence, il a une passion lorsqu'il parle de son pays. Il s'intéresse au sort de son pays, ce qui est assez curieux. Je veux dire, par là, on n'est plus très nationaliste finalement. On parle de sa ville et on en parle rarement comme quelque chose de positif. Enfin, je ne me rappelle pas en Europe avoir vraiment entendu ce sens du nationalisme et cette façon de se sentir patriote comme ça, avec ce côté nature, avec ce côté beauté. Et puis, lorsque vous voyagez au Nicaragua, vous êtes surtout frappé par, la complexité de ce pays, mais si vous prenez un peu de temps, un peu de peine d'explorer le Nicaragua, il y a quelque chose qui vous surprend tout seul, comme ça, c'est que vous êtes récompensé partout. Partout où vous allez, vous sentez comme une récompense, comme un cadeau, comme une offre, comme quelque chose qui vous est donné. Et je ne sais pas, déjà le nom Nicaragua, il y a plusieurs origines, j'aime bien, il y en a certaines qui disent que c'est
vrai que ça sonne bien.
Oui, c'est l'union de deux mots. Nicarao, c'était le nom d'un grand chef amérindien qui vivait sur le lago de Nicaragua, sur ce grand lac Nicaragua. Et le mot espagnol agua, ça signifie eau justement. Hein. Donc Nicaragua, ou Nicaragua, ou Nicarao agua. On va y arriver. Bon, ça a été choisi par les explorateurs, je pense, en raison de ces nombreux lacs, de tous ces lagons qu'on retrouve dans le pays, et qui couvre surtout cette région du côté Pacifique. C'est la première qui nous touche, bien sûr, c'est là où, où pratiquement toute la population se trouve. Et il y en a d'autres qui disent que ça viendrait d'une expression nahuatl. Vous vous rappelez sûrement, Frédéric, que quand on a vécu quelques semaines au Guatemala, très souvent je mentionnais le fait de cette langue aztèque qui est venue du Nord au moment des invasions espagnoles, c'est-à-dire ces gens qui ont aidé, c'est ceux qui ont d'abord... perdu pratiquement l'empire aztèque, c'est-à-dire qui ont combattu contre l'aztèque, mais qui parlaient des langues nahuatl, et qui finalement se sont retrouvés les amis des Espagnols. Alors ça voudrait plutôt dire Nikatl Nahuac.
Bien sûr.
Ce qui pourrait se traduire par ici, près du lac. Vous voyez qu'on n'en sort pas. Hein. Mm-hmm. Cette idée de lac, Atl en Nahuatl, ça veut dire l'eau. Hein. C'est vraiment le sens, on le retrouve dans le calendrier par exemple. Et si on parvient à trouver une sorte d'arrangement, de consensus autour de ce mot Nicaragua, ben je dirais que c'est surtout le fait que c'est effectivement toujours ce côté aquatique. Et si vous preniez, par exemple, je ne sais pas, le drapeau du Nicaragua, eh bien vous avez un emblème qui figure
beaucoup
au centre. Non, ça donne surtout les valeurs du Nicaragua. C'est-à-dire que vous avez une forme triangulaire qui est l'emblème qui désigne l'équilibre, l'égalité aussi. Et puis vous avez des volcans qui sont là dans l'eau, qui symbolisent ce pays qui est bordé par les deux océans. C'est-à-dire que c'est vrai c'est incroyable de penser qu'on est à la fois si près du Pacifique lorsqu'on est dans les grandes villes du Nicaragua, et puis qu'à l'autre bout de cette jungle incroyable, de cette immense masse assez peu connue finalement, il y a l'Atlantique. Et en dessous, vous avez l'arc-en-ciel, qui est le signe de la paix. Et vous avez le fameux, ce qu'on appelle sur place, le gorro frigio, c'est-à-dire le bonnet phrygien, hein, ce bonnet phrygien qui est le bonnet révolutionnaire, comme on l'avait en France, et qui représente la liberté du Nicaragua. Alors le pays, bon, c'est un pays qui est assez grand finalement. Cette république, elle fait, je crois, quelque chose comme 130 000 km² à peu près. Et c'est le plus grand de tous les pays d'Amérique centrale. Et finalement, qu'est-ce que je peux le comparer? Oui, bah, c'est à peu près la surface de l'Angleterre.
C'est
déjà pas mal. Hein,
c'est déjà pas mal.
On dit un petit pays d'Amérique centrale, et bien c'est là qu'on voit que le plus grand fait quand même... Oh, je sais pas, si vous preniez un autre pays sur une province du Canada, parce que c'est immense le Canada, je sais pas, vous prenez la Nouvelle-Écosse, ben voilà, c'est à peu près le format du Nicaragua. Et puis la frontière nord, vous le savez sûrement, elle touche le Honduras, c'est la plus longue bien sûr, tandis qu'au sud, alors vous partagez cette frontière et puis ce côté aquatique, puisqu'il y a une rivière qui les sépare, enfin un fleuve, avec le Costa Rica, et donc ça donne à la République du Guatemala une forme assez curieuse, c'est-à-dire un véritable triangle, une forme triangulaire qui est baignée à l'ouest par le Pacifique, à l'est par les eaux de la mer des Caraïbes. Je disais Atlantique, mais c'est vraiment cet océan Atlantique, Caraïbes, c'est celui qu'on préfère d'ailleurs.
Dans le roman de la
Nous sommes au Nicaragua, Maurice. Comment est fait l'intérieur du pays ?
Alors si vous prenez le sens du triangle et que vous partez du côté pacifique, c'est-à-dire du côté occidental, alors là vous avez une région qui est formée de lacs, on en a beaucoup parlé déjà, on en parlera sûrement, qui en fait surplombe carrément, je dis surplombe parce qu'on a l'impression d'être perché sur le Pacifique. On est pratiquement, les lacs ont exactement, il y a quelques kilomètres, hein, je crois que la distance la plus courte c'est 14 kilomètres de terre entre les grands lacs et le Pacifique, mais c'est parce qu'il y a des volcans, il y a tous ces sommets volcaniques qui donnent l'impression d'un balcon comme ça. Donc si je parlais de surplomb, c'est un peu pour cela. Et ça s'ouvre sur des montagnes, sur des collines au centre du pays. Et puis, alors à ce moment-là, petit à petit, ça fait place à la région atlantique, alors qui est vraiment couverte de plaines qui s'avancent doucement vers les Caraïbes. Alors il y a quelques millions d'années quand même, hein, ça ne s'est pas fait en un jour, la croûte terrestre de tous les pays d'Amérique centrale s'est tout à coup soulevée et puis elle a fait vraiment jaillir hors de l'océan, hors des deux océans, les volcans d'abord bien sûr, ces montagnes, et ça a façonné pratiquement toute une partie du relief de cette région. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs chaînes de montagnes comme cela qui traversent véritablement le pays. Vous me direz que c'est valable pour toute l'Amérique, hein, on a vraiment l'impression d'une épine dorsale comme ça qui s'est formée entre les deux grandes plaques. Et là, vous avez plusieurs chaînes. Vous avez celle d'Isabelia, la Dariense, et puis ça, c'est surtout le nord de la région centrale. Il y a une région que j'aime bien, c'est la Chontaleña, qui est au sud, et puis la Sierra de Los Maribios.
De Los Maribios.
Maribios, c'est joli comme nom, c'est une formation volcanique qui court vraiment le long de la côte ouest. Et le Nicaragua, ben, il faut le savoir, c'est fantastique. Quand on évoquait le Guatemala, on était à 28 ou 30 volcans, il y en a 58 au Nicaragua.
Ouais, quand même.
Et c'est impressionnant parce qu'il y en a 6 qui sont encore en activité, et puis on trouve surtout des cratères dans ce lac, le fameux lac Nicaragua, et je pense aux Concepción, aux Madera, qui sont sur... C'est fantastique, ces deux volcans qui sont placés sur l'île d'Ometepe et à Zapatera, sur l'île de Zapatera justement, et ce sont des formations qui sont très riches bien sûr en minerais. Je dirais qu'au Nicaragua, vous en avez parlé dimanche dernier, il y a de l'or bien sûr, il y a de l'argent, et ça malheureusement... Comment est-ce qu'il faut vous dire, ça a eu pour conséquence en fait de rendre au cours des âges des déplacements de communication extrêmement difficiles, tous ces volcans, toutes ces montagnes. Et il y a eu de nombreuses éruptions volcaniques dans les temps passés. Et pour effet, je vous dirais que ça a surtout créé des effets négatifs, c'est-à-dire ça a carrément recouvert de nombreuses villes et de nombreuses cités. Ça fait même l'objet de nombreuses légendes au Nicaragua, hein, cette impression que quelque chose a été recouvert.
Mais sur ce siècle ?
Ah oui, non, je dirais carrément au cours des millénaires, c'est-à-dire qu'il y a eu des cités précolombiennes, il y a eu naturellement des cités hispaniques aussi. Et la Sierra que vous aimiez bien tout à l'heure, c'est-à-dire Los Maribios, hein, elle regorge de lacs volcaniques, ça c'est très très beau. Et il y a des sortes de petits lagons comme ça. Et le plus vaste, bon, c'est naturellement...
On peut se baigner dans ces lagons.
Vous allez voir que ce sont des lacs hyper intéressants. Là, sans le vouloir...
Ils sont chauds,
non ? Oui, ils sont chauds, mais ils sont très troublés, très curieux. Je pense surtout à ce lac Nicaragua et puis au lac Managua, qui sont les deux plus grands du pays. Et ce sont deux lacs qui représentent à peu près, je ne sais pas, 10 ou même peut-être un peu plus, 10% de la surface du pays. Et Alexandre, le fameux Humboldt qui a voyagé vraiment dans toute l'Amérique latine, en tout cas, il est venu en Amérique centrale, il est parti ensuite en Amérique du Sud, il a visité le Venezuela. Ce baron von Humboldt, il disait que le Nicaragua, c'était vraiment le pays le plus riche qui soit en lac. Ça l'avait troublé. Et le lac Nicaragua, on l'appelle aussi Cocibolca. C'est un très joli nom, c'est un nom indien qui veut dire douce mer. Pourquoi? Parce que en fait, selon les Indiens qui vivaient dans la région, les Chorotegas, eh bien, c'est un lac qui, de toute façon, il est pas petit, il fait quand même 150, 160 km de longueur. Hein. Ouais. Et quand on voit nos lacs à nous, imaginez sur le Léman, ça fait déjà un bon bout. Et il fait quelque chose comme 80 ou 70 km de large. Donc, c'est vraiment un très, très grand lac. Et c'est le plus grand lac d'eau douce, d'ailleurs, de toute l'Amérique centrale. Et il a une profondeur qui n'est pas énorme. Je crois qu'il fait une centaine de mètres. Donc, c'est pas un lac très très profond. Et bon, dès qu'on arrive à 8000 km², c'est quand même une surface, c'est une sorte de petite mer intérieure. Et le lac Managua, bon, il est plus au nord. Lui, on l'appelait Xolotlán, ça c'était de nouveau un nom aztèque, ce qui veut dire en nahuatl la grande étendue d'eau. Hein. Vraiment, ce sont des termes qui reviennent toujours. Et lorsqu'on est là du côté pacifique, le Nicaragua, c'est naturellement, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi en Californie. C'est une région qui est vraiment sujette au tremblement de terre, bien sûr. Et on estime que pratiquement tous les mois, il y a une secousse qui peut être ressentie au Nicaragua. Bon, elles sont presque imperceptibles, mais enfin, on sait par rapport aux instruments d'aujourd'hui qu'on ne peut pas passer 30 jours sans que ça bouge un peu. Et ces tensions géologiques, bon, ben, parfois ça crée des séismes incroyables. Le dernier qui a frappé, là on en a parlé, c'est 1972, c'était quand même 7 sur l'échelle de Richter. Là on arrive vraiment à des sommets de mouvement.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
J'aime bien ce rythme.
Ah oui, c'est même africain quelque part.
Mm-hmm.
Donc on était en train de se baigner dans les lacs.
Oui, vous avez vraiment envie de vous baigner. On, on en reparlera parce que c'est
parce
vrai
que ça fait quand même 10% du pays.
Oui, non, il y a des lacs
énormes.
Il y a des lacs merveilleux pour se baigner, mais les grands lacs en principe sont un peu des cloaques dans la mesure où de grandes villes, Managua pour commencer, sont posées au bord des lacs et il n'y a pas vraiment d'écoulement. Ce sont des lacs qui reçoivent de l'eau. Mais bizarrement, ce qui moi me paraît très curieux, c'est que quand on pense à des lacs, on pense à des rivières, et je crois qu'il doit y avoir une bonne centaine importante, je ne sais pas, 95 ou 96 au Nicaragua. Alors, elles sillonnent le pays, mais elles ne se jettent pas du tout dans le Pacifique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le pays penche. Il y a des voies navigables superbes qui traversent carrément le versant est de tout ce qui est montagneux, mais justement on arrive à couper à travers les montagnes et on part du côté atlantique. Alors il y a par exemple le Rio Coco, moi j'aime bien ce petit nom, hein. Le Rio Coco, il est au nord du pays, en fait c'est une frontière entre le Nicaragua et le Honduras, et puis au sud, alors là il y a des cours fantastiques, il y a le Rio Grande, le Rio Escondido, le Rio San Juan, et alors ça délimite la zone frontalière qui donne plutôt du côté Costa Rica, qui est très riche en eau aussi, et le Rio Escondido, eh bien c'est vraiment, si on parle de communication ou alors carrément de transport, c'est le cours d'eau le plus important qui pénètre dans cette région orientale du pays. Et le Rio Tipa, comment il s'appelle déjà, Tipitapa, oui c'est ça,
c'est possible.
Tipitapa, c'est très joli, Tipitapa. Alors ça relie le lac Managua au lac Nicaragua. Ces deux lacs sont reliés justement par le Tipitapa, c'est ça. Et quand on pense bien sûr à un pays comme le Nicaragua, on s'imagine vraiment sous les tropiques, hein. En Amérique centrale, il y a vraiment deux saisons qui sont très marquées au Nicaragua. Alors la saison sèche, la saison des pluies, ça varie quand même selon les régions, ça vous aurez compris. On a vraiment parlé de trois niveaux, de trois endroits très différents.
Quelle saison
Nicaragua.
Par rapport à nous?
Alors, je dirais qu'à l'ouest du pays, la saison sèche, bon, on l'appelle le verano, c'est-à-dire l'été. C'est vraiment l'été à leur façon parce que ça s'étend à peu près, je sais pas, du mois de novembre au mois d'avril. Et pourtant, on est encore dans l'hémisphère nord. Hein, donc, si on l'appelle été, c'est parce qu'on fait le contraste avec l'invierno, qui lui est beaucoup plus humide. C'est la saison des pluies. C'est carrément tout le reste de l'année. Hein.
Ouais,
et ça va du mois de mai au mois d'octobre, grosso modo. Alors, je dirais c'est peut-être mieux de voyager au Nicaragua pendant la saison sèche, mais pendant la saison des pluies, moi j'aime bien. Parce
six
que...
mois d'été, quand même, c'est déjà pas mal.
Oui, mais ce qui est fantastique, c'est que pendant la saison des pluies, il n'y a à peu près qu'une heure de pluie intense par jour. Hein. Ça n'a rien à voir avec les grandes moussons qu'on a en Inde ou ailleurs. Et finalement, ça dure peu. Et par contre, dans les régions orientales du pays, bien sûr, la saison des pluies, attention, ça s'étend pratiquement sur toute l'année. Alors là, elles ont tendance à être beaucoup plus torrentielles. Hein. Là, je parle de cette espèce de jungle étrange qui va carrément du côté Caraïbe. Et puis les températures sont agréables, c'est un pays assez extraordinaire puisque si on parle de cet été un peu curieux, eh bien je sais pas, il va faire entre 25, 27, 30, 35 degrés au maximum.
Ça me va bien.
Et puis alors si vous allez au Nicaragua en saison des pluies, alors là au contraire il va faire un peu plus chaud, c'est-à-dire 30, 35 assuré. Et en altitude, bon, les nuits, attention, comme les jours d'ailleurs, peuvent être beaucoup plus frais, beaucoup plus fraîches. Ces nuits, si on est dans la Sierra, comme on l'appelle, c'est vrai que là, on a envie d'avoir une petite laine. Et si on parle bien sûr de ces différentes régions, ce qui est fascinant, c'est la diversité de la flore aussi. Parce qu'il y a une végétation incroyable au Nicaragua. Ça ressemble un peu à celle du Costa Rica et puis à celle de la Colombie. Ça, on connaît mieux. On a l'impression de mieux sentir ce qu'est la végétation dans ces deux pays. Eh bien, le Nicaragua est un peu la même chose. de la région du Pacifique, c'est d'abord des forêts tropicales plutôt sèches d'aspect, et puis en altitude, alors vous avez des forêts un peu comme chez nous, avec des feuilles caduques, avec des conifères par exemple. Donc on a un peu ce côté Jura, ce sont de très très belles forêts. Et ce côté un peu plus frais comme ça, avec une végétation beaucoup plus intense que chez nous, c'est vraiment très beau, avec tous ces ruisseaux, ces rochers. Et puis alors les régions atlantiques, attention, alors ça c'est vraiment la forêt tropicale, ça c'est humide, et c'est d'ailleurs de là qu'on tire pratiquement toute la richesse, là je pense au bois bien sûr, à la production du bois et des bois précieux. Alors on peut avoir des résines bien sûr, on trouvera de la gomme, de la balsamine, des huiles, qu'est-ce qu'on peut trouver encore, des épices bien sûr, et puis vous savez qu'on fait énormément aussi de crins, des crins végétaux avec certaines essences, et si vous aimez...
Donc, je sais pas, grosse si... production à ce niveau-là.
Ah oui, puis il y a la construction aussi.
L'être humain est bien basé là.
Ben non, il n'y a personne justement, c'est ça qui est génial, c'est typique des grandes forêts, on les exploite, mais en fait il n'y a pratiquement pas d'habitants. Mais par contre c'est là qu'on va trouver, je ne sais pas, par exemple, ce qu'on appelle le cèdre sur place, c'est un bois qui est utilisé pour toute la construction, et puis vous avez l'acajou alors qui est utilisé pour l'ébénisterie, enfin tout ce qui est ébénisterie. Et il y a un arbre assez curieux d'ailleurs que j'aime assez, ça s'appelle le cocoboldo. Ça c'est un arbre qui, ben, je crois qu'il fait partie de la famille des cacaoyers. Et c'est un arbre qu'on utilise aussi pour, ça fournit une sorte de bois assez dur qu'on utilise également pour le sculpter, enfin pour faire des meubles. Et il y a le bois de rose bien sûr, il y a le guayaco, et puis les pins aussi, ah puis il y a un arbre qui est superbe, c'est l'ébène, hein. L'ébène avec ce côté très très foncé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gommiers bien sûr, et puis l'arbre national, alors c'est l'arbousier, on en voit un peu partout, et c'est vraiment l'arbre du Nicaragua. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore, ah ben le chilamate par exemple. Ça, c'est un arbre, comment vous le traduisez, c'est l'arbre à caoutchouc, finalement. Et ses racines, alors, elles sont assez curieuses, parce que vous le voyez vraiment, vous savez, c'est un arbre qui a des racines qui pendent carrément, et qui montent très très haut, c'est-à-dire qu'elles s'entremêlent carrément tout autour du tronc. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner? La malinche, avec des fleurs oranges absolument incroyables, et puis avec ces espèces de follicules, ces espèces de grands haricots de graines qui pendent, ça c'est assez typique du pays. Vous allez trouver aussi des mangroves tout au long des côtes, et sur la partie nord-ouest de cette côte pacifique, les mangroves, on a l'impression qu'on va trouver des bestioles incroyables à l'intérieur.
When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was beautiful, magical, and all the birds in the trees, they be singing so happily, oh joyfully. Send me away, teach me how to be.
on entend le téléphone là, non ? Allô, oui, bonjour, qu'est-ce que vous prenez ? Qu'est-ce que vous aimez, Frédéric ? Du café, du thé, du cacao, un jus de fruits, un petit jus d'orange ?
Ah, un petit jus d'orange et cacao, pourquoi pas, tiens.
Cacao, vous prenez du sucre avec ?
Ça serait le plein d'énergie.
Avec un peu de sucre ?
Alors, je crois pas, non, si le cacao c'est quand même assez sucré.
Non ? Oui, non, c'est simplement pour vous dire que le café, le thé, le cacao, les agrumes... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? J'ai dit le sucre, parce que bien sûr, il y a aussi le coton, il y a le tabac, le maïs, le manioc. Qu'est-ce qu'on pourrait manger encore au petit déjeuner ? Des haricots, des bananes frites, tout ça, c'est le Nicaragua, finalement. Parce que, par exemple, le caféier, vous savez, c'est ces petits arbustes avec des feuilles brillantes, qui ont un ton comme ça, vert foncé, les cannes à sucre, ça se reconnaît avec ces bouquets de tiges là, extrêmement minces, et avec leurs longues feuilles, avec ce vert tendre comme ça qui joue sous le vent, c'est superbe. Et puis quand on parlait tout à l'heure de l'orange, des fleurs, on a tout ce qu'on veut, l'hibiscus.
Donc là, on est du côté d'une région
un peu partout, je veux dire. C'est quand même un peu tropical partout. Pousse, ça change selon l'altitude. Le café, vous montez jusqu'à 1000 mètres, 1500 au pire. Mais l'hibiscus, la bougainvillée, je sais pas, les bégonias. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce que je mettrais encore dans mon jardin ? Des impatientes, ça c'est sympa. Aussi des orchidées, bien sûr, et puis toutes sortes de spécimens de lys. Il y a des fleurs très très belles, là, un peu comme les orchidées. Et puis, alors, dans un climat aussi chaud que ça, qu'est-ce qu'on va trouver encore ? Ben, il y aura tous les animaux qu'on peut rêver, c'est-à-dire que. Au Nicaragua, vous
dont
avez...
le tapir.
Ah ben oui, comme on l'avait au Belize, c'est vrai.
Dont on a parlé mais, il y a pas très longtemps.
C'est vrai, ça c'était pour le Belize. Mais c'est un peu la même chose. Il y a toutes sortes d'animaux sauvages. On va retrouver le puma, on va retrouver le jaguar. Qu'est-ce qu'il y a comme bestioles ? Des coyotes, des cerfs, ça paraît un peu normal. Mais si vous cherchez la belette et le petit lapin, vous les trouverez aussi, à mon avis. Mais en l'occurrence, il y a...
Bon, pour
a
la beaucoup... belette et pour le petit lapin, ça va, le jaguar
ça,
et le reste...
Ça, c'était la fontaine.
Pour sortir la nuit.
Il y a le... dans les animaux sympathiques, je dirais, il y a les singes, les tatous, les fourmiliers aussi. Et puis, il y a toutes sortes de petits rongeurs. Il y en a un qui est originaire du Nicaragua, qui est assez curieux. On l'appelle le guatusse, ou le guatusse. Ça dépend comment on les prononce, si on le met au pluriel ou pas. Et puis, il y a bien sûr tout ce qu'on peut rêver comme bestioles au ras du sol, c'est-à-dire les reptiles, tous les petits amphibiens sympathiques, les lézards, des iguanes. Et alors le Nicaragua, ce qui m'a surtout fasciné dans ce pays, ce sont les oiseaux, parce qu'on retrouve toutes sortes d'oiseaux. C'est nouveau, ces pays un peu comme le Belize, on le disait tout à l'heure, c'est un pays qui a un côté assez vierge, dans le côté tropical par exemple.
Grosse réserve.
Les haras, les perroquets, les dindes sauvages, je les adore, elles ont un ton un peu verdâtre, comme ça, comme les pans chez nous.
Elles sont tendres.
Comment ?
Elles sont tendres.
Les dindes ?
Oui.
Non, elles sont un peu coriaces, là, elles courent bien. Hein, je veux dire, ce sont des oiseaux sauvages. Les hiboux, les buses, les pélicans, tiens, ça, si vous êtes au bord de la mer, quand on les voit glisser sur les vagues, c'est somptueux. Et puis le quetzal, ce fameux quetzal, un des oiseaux les plus rares d'Amérique centrale. Alors, il y a une chose très, très intéressante. Là, vous m'avez parlé tout à l'heure du lac. Eh bien, dans le lac Nicaragua, on a une faune aquatique tout à fait incroyable. C'est totalement inhabituel. Et ce sont des animaux qu'on trouve normalement en eau salée. Alors, il y a une hypothèse assez curieuse qui prétendrait qu'il y a eu une explosion volcanique. Et qu'un jour on était séparé de l'océan Pacifique par hasard. Moi j'en connais une autre aussi, donc petit à petit l'eau aurait perdu sa salinité. Mais une autre version qui me paraît très intéressante, c'est que les animaux aquatiques seraient venus par la rivière, en fait auraient traversé tout le pays depuis les Caraïbes pour pénétrer dans ce lac. Alors ce qui est fantastique, c'est qu'on a des sortes de mutants, et c'est unique au monde, hein, on a des requins d'eau douce. Et il y en a plein dans le lac Nicaragua. Baignez-vous, hein. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand vous vouliez vous baigner. Et il y a aussi... il commence à diminuer, c'est vrai, mais c'est tout à fait unique au monde. Ça, je crois que ça n'existe nulle part ailleurs et c'est très impressionnant. Il y a aussi des poissons-cis. Ça n'existe absolument pas dans un lac normalement. Et puis toutes sortes de variétés de sardines. Les sardines, j'en ai jamais vu dans le Léman. Je veux dire, c'est vraiment des petites bestioles sympathiques, mais qu'on trouve en principe avec de l'eau de mer. Alors il y a une mutation carrément. Alors ceux qui n'ont pas muté du tout, par contre, si vous visitez le Nicaragua, eh bien, ce sont les moustiques. Ça existe aussi, bien sûr, quand on parle de climat tropical. Mais bon, ils sont un peu omniprésents, mais on arrive très bien à s'en protéger. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le son des cigales, par exemple. Ça, voilà un son qui me rappelle le Nicaragua, ou alors tous ces coléoptères, les abeilles, les lucioles, la nuit. C'est quand vous sortez comme ça sous la pleine lune et que vous avez des milliers, des millions de lucioles, et puis des papillons. Ça manque un peu dans nos campagnes. Le Nicaragua est très, très riche en papillons. Puis il y a une petite bestiole qu'on voit de temps en temps. Moi, je cherche surtout à l'éviter. Il faut faire attention quand on ramasse quelque chose, c'est le scorpion. Le scorpion noir, il est pas méchant finalement. Il vous pique, il fait mal, mais on en meurt pas. Parce qu'en tout cas, c'est pas une piqûre mortelle. Alors les Nicaraguayens, moi j'aime bien aussi. Chaque fois que vous les rencontrez, ils s'appellent entre eux comme ça. Ils s'interpellent en s'appelant Nica. Nica, quand on le prononce vraiment à la façon hispanique, ça a un petit côté sec, claquant, comme ça. Et c'est un peuple. C'est assez curieux parce qu'on a l'impression qu'ils sont. Il y a quelque chose d'exubérant chez eux. Et en même temps, ils sont tout à fait solennels. C'est-à-dire qu'ils ont un côté très strict et en même temps une exubérance qui paraît curieuse. Quand vous les voyez dans un bistrot, dans une boîte de nuit, comme ces boîtes à chansons dont on parlait pour Managua, on retrouve ces deux aspects. Parce que ce sont des gens qui ont une foi religieuse absolument incroyable. Ce sont des gens qui adorent, qui ont un sens, en tout cas, de la famille qui est extraordinaire. Et puis, le travail. Alors, ça paraît curieux hein, pour un pays d'Amérique latine, mais tout ça, ça va
pourquoi
un peu
ça
ensemble.
Paraît curieux
mais je dis curieux parce que toute l'Amérique latine travaille, c'est pas ça. Mais ce sens du labeur, c'est vraiment quelque chose qui est très propre au Nicaragua.
Justement, s'ils sont très religieux.
Donc il y a des règles, si vous voulez. Il y a l'exubérance, mais en même temps, il y a ce côté très sympathique. Et puis il y a surtout, alors qu'il y a peu de pays où j'ai rencontré cela en Amérique latine, c'est la curiosité. Ce sont des gens qui ont pour des raisons politiques aussi, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, qui sont beaucoup sortis de chez eux, qui ont émigré et qui ont des fois qui ont vraiment la curiosité de savoir comment fonctionne le monde. Et je dirais que c'est surtout depuis la Révolution qu'ils se rendent compte que finalement le Nicaragua existe. Ils sont fiers comme tout d'avoir fait la Révolution parce que pour la première fois, c'est peut-être le cas pour vous Frédéric, on a su tout à coup où se trouvait Managua et où était le Nicaragua.
Passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Les ombres se chinent à rechercher des nuances. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser. Silence mes avatars, je passe sur tes frasques. Omnibulé, pourquoi pour un vasistas, loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. C'est l'un de cours et m'entraîne vers d'autres riveraines, vers la grande inconnue, loin du réconfort. Les ombres s'échinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser.
On a parlé de la faune, on a parlé de la flore, mais la population là-dedans, où se trouve-t-elle?
Alors ça c'est assez curieux parce qu'en fait, je vous ai dit que c'est aussi grand que l'Angleterre. Il y a quelque chose comme 4 et quelques millions d'habitants, donc c'est petit en population. Et Qu'est-ce que je vous dirais, si on avance un peu dans le temps, dans quelques années, ils seront certainement 5 millions. Mais alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a pratiquement 60% de la population qui vit dans les villes. Hein, donc, ça laisse peu de place par rapport à cette immense nature dont on vient de parler. Et les trois quarts...
Cette immense nature, ils y vont uniquement pour travailler.
Oui, pour le bois, agriculture, et puis cette immense surface qu'on a évoquée sur le plan tropical. Ce qui est aussi assez extraordinaire quand on voyage dans ce pays, c'est que le trois quarts de la population a moins de 16 ans. Et ça, je crois que c'est la chose la plus impressionnante qui soit. Essayez d'imaginer ça dans une ville comme chez nous, d'avoir 75% qui a moins de 16 ans. Et on a l'impression d'être dans un pays de gamins, je veux dire, c'est vraiment fabuleux.
C'est dû à quoi ?
Comment ?
C'est dû à quoi ?
Ah ben, il y a eu quand même, on en parlera, tiens, ce sera peut-être l'occasion de parler un peu de l'histoire récente de ce pays. Ceux qui restent, ce sont effectivement les enfants, mais je dirais c'est aussi la mentalité qui est extraordinaire. Et, bon, il y a des métis, il y a des Amérindiens, il y a des gens d'origine européenne, on a parlé un tout petit peu des Africains, mais sur le plan indigène, en fait, ils doivent représenter 4 ou 5% au maximum, donc je parle d'Indiens purs. Hein. Et il y a, je ne sais pas, une dizaine de pourcents de créoles ou de gens qui sont d'origine africaine, et puis grosso modo 10 à 12% qui sont blancs, vraiment blancs. Donc tout le reste, ce sont des métis. Et ce qui est fantastique, et je crois que c'est ça qui nous choque quand on veut voyager dans ce pays, et on le fera parce qu'il y a des endroits absolument fabuleux, c'est que 90% de la population est collée véritablement du côté pacifique. Et tout le reste... on ne représente que 10%. Donc c'est un peu comme si vous aviez une frange comme ça au pied des volcans, près de ces grands lacs. C'est beaucoup d'avoir une concentration aussi incroyable. Il y a déjà 60% dans les villes et 90% du côté pacifique. Et ce qui est faible, c'est bien sûr tout ce côté atlantique. C'est un immense vide. Et là, alors par contre, c'est là qu'on retrouve la plus grande concentration d'indiens véritables, les Amérindiens. Et vous avez les Indiens dont on a beaucoup, beaucoup parlé pendant l'époque des Contras et des Sandinistes, ce sont les Miskitos. Les Miskitos, c'est une grande communauté. Et ensuite, il y a les Soumous, il y a les Ramas. Là, je parle vraiment d'indigènes. Et finalement, quand on est au sud-est du pays, eh bien, on est très troublé parce que c'est là qu'on a une sorte de concentration culturelle de langue anglaise. Tout le reste du pays parle espagnol ou des langues indiennes. Mais ce sont naturellement les anciens esclaves qui sont partis des colonies britanniques des Caraïbes et qui sont arrivés sur la côte. Et, bon, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi du côté Caraïbes...
C'est-à-dire que les petits patelins ont des noms anglais.
Ils ont des noms absolument incroyables. Je ne sais pas, vous avez Bluefields, vous avez Elm Bluff. Elle en espagnol et Bluff en anglais. Vous avez Corn Island, qui est un très très bel endroit. On ne peut aborder pratiquement qu'en avion. Là, il faut faire des sauts de puce. Hein. Il n'y a pas vraiment de route, ou alors le bateau. Vous pouvez longer les côtes, mais il n'y a pratiquement aucune vraie communication, si ce n'est par l'eau, par l'air, avec cette région. Et puis naturellement, il y a... Quand je parle de Corn Island, c'est vraiment l'île rêvée. Elle est complètement perdue, comme ça. On cherche sur la carte un moment, et puis on la trouve là, en plein cœur des Caraïbes. Ben ça, c'est vraiment cette influence anglophone qui est tout à fait manifeste. Alors, si j'ai parlé de la langue, c'est simplement parce que vous aurez compris que la langue officielle, c'est naturellement l'espagnol. Mais les Espagnols qui se sont établis au Nicaragua, eh ben, ils venaient pratiquement tous de Galice, c'est-à-dire de l'extrême de l'Espagne. Et la Galice a une langue assez curieuse, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de vocabulaire qui fait qu'on a mélangé ça avec des mots indigènes. Et aujourd'hui, eh bien, la langue espagnole est une langue tout à fait unique. Et quand on a appris l'espagnol comme moi dans un pays voisin, au Mexique, eh ben, je vous assure qu'on refait son vocabulaire au Nicaragua et on s'amuse beaucoup, justement à cause de tous ces modismes. Et c'est une langue qui est beaucoup moins formelle que dans tous les autres pays. Je dirais qu'il y a des expressions qui sont vraiment tout à fait typiques. Et puis quand on rajoute avec un petit peu de Miskito, un peu de Soumou du côté de l'Est, là on se rend compte que c'est un pays qui est, je l'ai dit tout à l'heure, un portrait, une mosaïque. Vous mettez tous là ensemble et vous, tiens, elle vient de passer, elle change de trottoir, c'est toujours une très très belle femme, là je parle de la nicaraguayenne. Alors, en plus, ce sont des gens qui, je l'ai dit tout à l'heure, ont souvent eu la chance pendant ces 10 ans de publicité involontaire. Ça, je crois qu'il faudra qu'on évoque cette période des Sandinistes, des Sandinistes et des Contras, le problème avec les États-Unis, avec Cuba, enfin, cet immense balancement d'un pays qui a eu une dictature sous les Sandinistes de qu'est-ce que je raconte sous Somoza, par contre, de plus de 40 ans. Donc qu'il y a eu des changements extrêmement forts dans ce XXe siècle. Et je crois que c'est cette ouverture sur le monde, cette espèce de publicité presque négative qui a fait qu'on a l'impression que la nuque s'est redressée, que ces gens-là, tout à coup, se sont sentis exister. Comme s'ils étaient perdus là, dans cette petite Amérique centrale, et tout à coup ils étaient sur la carte du monde. Et ça se sent très bien. Quand j'ai parlé de communication, de la beauté de cette personne de tout à l'heure, cette ouverture, cette noblesse, ce sens du moi, du soi, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux gens du Nicaragua. Des gens chaleureux avec une très 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 belle allure.
On se retrouve dimanche prochain.
Ben oui.